Pascal CV et Thomas Gauthier.
Pascal CV qui est en vacances. Audrey Pinchot qui remplace. À pied levé. Le gaz au fond. La Pinchot qui est là avec nous autres. Merci d'être là, soit dit en passant.
Plaisir.
C'est 21 degrés sur Québec. 21 degrés. Alternance soleil-nuage pour aujourd'hui. Maximum de 25. Ce soir, averse. Même risque d'orage. Minimum de 17. Demain, vendredi, ce sera généralement nuageux avec des probabilités d'averse à 40 %. Maximum de 21. Samedi, dimanche, le topo n'a toujours pas changé. Deux belles journées ensoleillées, maximum de 20 pour samedi et dimanche, maximum de 22. Audrey?
Il y a un léger ralentissement si vous êtes sur la capitale, direction ouest, entre Robert Bourassa et Henri IV en ce moment. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 par texto.
Tu voulais nous parler d'un documentaire que tu as vu sur Netflix?
Eh oui, j'ai commencé un documentaire qui s'appelle Unlocked, a Jail Experiment. Fait qu'on est en prison en Arkansas, puis il y a un shérif là-bas qui a décidé de mettre en place une expérience sociale assez radicale, merci, pour donner un peu plus de liberté, d'autonomie aux détenus là-bas. Parce que les détenus de l'État d'Arkansas sont 23 heures sur 24 enfermés dans leur cellule. Okay. Ce qui fait qu'il y a une certaine rage qui s'accumule, une tonne d'émotions, une tonne de pensées. Puis quand ils sortent l'heure de la journée pour manger, respirer un peu, généralement, ça se passe pas particulièrement bien. Il a commencé à regarder ce shérif-là, ce qui se faisait ailleurs dans le monde, pour réaliser que, ben, il y avait peut-être une petite liberté supplémentaire. Donc là, on a décidé de commencer cette expérience sociale-là en faisant une inspection des cellules totales pour retirer tout ce qui pourrait être dangereux. Après ça, on s'est dit, on va les mettre en communauté dans la prison, puis on va retirer les agents correctionnels carrément pour que ces gens-là soient capables de se gérer eux-mêmes.
Ce qui se fait dans des prisons en Amérique du Sud. Là.
Ouais, okay. Lui a vendu l'expérience aux prisonniers en leur disant que c'est leur chance de prouver qu'ils sont capables de se tenir en société. Parce que le point qu'on a remarqué, c'est que les homicides sont très, très élevés là-bas. Puis 50 % des sorties de prison reviennent dans les trois années suivantes parce qu'ils ne sont pas capables de faire une réinsertion sociale qui a du bon sens. Et quand l'expérience commence, il y a deux réactions complètement opposées. Tu as certains détenus qui prennent ça comme une chance, qui veulent que ça fonctionne, qui veulent instaurer des règles pour que tout se fasse dans le respect puis dans l'ordre. Puis à l'inverse, t'as ceux qui cherchent le trouble, qui cherchent comment ils vont commander, là, tu comprends, des armes ou comment ils vont, parce qu'ils ont des comptes à régler. Okay. Fait que c'est vraiment fascinant de les voir évoluer dans ce contexte-là. C'est audacieux aussi comme expérience avec le type de criminel qu'il y a sur place. Il y en a de toutes sortes. Tu suis tout, là. Le premier repas, les premières 24 heures. Il parle beaucoup aussi avec les députés, le shérif, les constables, finalement. Tu sais, tout le monde qui est autour de cette expérience-là. À date, je suis très bien raide. C'est 8 épisodes, une quarantaine de minutes par épisode. Il y a des détenus que tu apprends à connaître d'un peu plus près aussi, parce que c'est tout que des personnages qui prennent de la place. Fait que c'est le fun de voir comment ça se passe ailleurs. Puis en toute franchise, je suis pas experte de comment ça se passe ici. Puis on dirait que j'avais plein de questions après avoir regardé ça qui me sont venues en tête, à savoir comment nous, on marchait dans nos prisons ici. Est-ce que ce genre d'expérience-là pourrait s'appliquer ou on est déjà assez lousse, tu sais? Je trouve que c'est ça. Il y a beaucoup de questions à se poser.
On a le plaisir d'accueillir Mathieu Lavoie, mon Mathieu Lavoie, moi, qui est président national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Salut Mathieu!
Salut!
Merci d'être là. Audrey t'a trouvé très sympathique au téléphone hier.
Absolument.
Oui, je voulais te le dire.
Ben, il n'y a pas de problème.
un screw sympathique, c'est rare ça.
Hey Mathieu, qu'as-tu pensé de ce documentaire-là?
Ben, écoute, j'en ai écouté deux épisodes. C'est sûr que quand on regarde aux États-Unis, on va comprendre qu'ils sont très coercifs, hein, sont dans le spectre très coercif comparativement au Québec ou comparativement au Canada en général.
Ouais.
Fait qu'ils ramènent un peu ce qu'ici on fait au Québec, là, dans le sens que eux là-bas, les détenus sont pratiquement toujours en cellule 23 sur 24. Ils ont pratiquement pas de liberté. Puis même quand ils sortent une heure, ben souvent ça dure pas une heure. Après 15 minutes, ils en rentrent en cellule parce que le bordel a pogné dans le secteur. Fait que si on compare, je dirais, là, on est vraiment dans deux mondes différents quand on compare le Québec, quand on compare notre façon de faire au Québec.
Mais peux-tu nous en parler de notre façon de faire au Québec? Parce que je suis loin d'être une spécialiste, puis je pense que si tu n'as pas eu affaire à la prison dans ta vie, tu ne sais pas nécessairement comment ça fonctionne.
Bien, au Québec, dans le fond, la grande majorité des personnes incarcérées sont libres dans un air de vie tous ensemble. Ils ont le matin, quand les cellules rouvrent, les détenus se vont dans l'air de vie. Ils ont accès à des micro-ondes, ils ont accès à des petits fours, ils ont accès à des activités, tout dépendant là, leur niveau de dangerosité. Mais ceux qui sont en cellule, en isolement, exemple 23 sur 24, sont là pour un délai déterminé, pour des raisons déterminées. On a quand même un cadre très strict au niveau là, de l'utilisation de l'isolement. Au niveau provincial, au niveau fédéral également, il y a eu des modifications là, au niveau de ce qui est l'isolement. Donc, clairement, on est à l'opposé de ce qui se faisait aux États-Unis. Nous, la différence, c'est que les personnes incarcérées, comme je disais, qui vont aller en isolement, c'est parce que soit ils ont des conséquences disciplinaires, ouais, soit qu'ils ont fait des actes, ou encore ils ont demandé eux-mêmes, des fois, à être en isolement pour éviter d'être en contact avec les autres, parce qu'ils ont des craintes, parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Donc, on est vraiment là beaucoup plus permissif. Et aux États-Unis, quand on regarde la série Vous parlez, il y a aussi une conséquence à dire, si ça fonctionne pas, on vous en met en cellule. Nous, au Québec, on est plutôt, si ça fonctionne pas, nos hauts dirigeants souvent vont dire, on va fermer les yeux parce qu'on sait pas trop quoi faire.
Oh boy, OK.
OK. Tu sais, moi, depuis des mois, des années même, on décrit le côté où on est vraiment dans l'opposé. Le spectre permissif, le spectre réinsertion sociale, le spectre où le moins d'encadrement possible, on doit mettre en place. Puis clairement, les deux côtés semblent pas fonctionner. Fait qu'il y a peut-être un juste milieu, puis ça fait longtemps qu'on demande au ministre d'atteindre le juste milieu, à dire oui, ça prend de la réinsertion, mais ça prend de l'encadrement. Parce qu'il doit y avoir un équilibre là-dedans.
Puis il y a une relation qui n'est pas nécessairement d'égal à égal en prison quand il y a un détenu puis un gardien de prison. Le gardien de prison doit faire respecter certaines règles, puis le détenu, lui, essaie de vivre du mieux qu'il peut dans un endroit qui n'est peut-être pas le plus beau des paradis. Est-ce que tu as l'impression que mieux le détenu se sent dans un centre de détention, moins ça va être dangereux pour les gars puis les filles qui travaillent sous ta gouverne?
Et quand je regarde des expériences là, des dernières années, c'est pas la réalité parce que on a une clientèle carcérale qui s'est alourdie avec les années. C'est-à-dire que les gens qu'on a à l'intérieur des murs, c'est vraiment des gens qui ont soit eu toutes les possibilités de rester à l'extérieur en attendant leur procès, en attendant leur sentence, et qui n'ont pas respecté, donc ils ont fini à l'intérieur des murs. Ou encore, c'est les gens qu'un juge a dit « Non, toi, je peux pas te laisser sur la rue, t'es trop dangereux, je te mets en prison en attendant ton procès. » Fait clairement, c'est comme on met tous les pires du système judiciaire dans une même bâtisse, dans des mêmes secteurs. Et ce qu'on voit depuis un bon bout de temps, c'est qu'ils continuent leurs actes criminels à l'intérieur parce que c'est rentable, parce que c'est payant. T'sais, quand on fait un secteur de 20, 25, 30 gars qui sont tous affiliés, exemple, aux gangs de rue, qui, à l'extérieur, ont un marché criminel, ben ils transportent à l'intérieur. C'est une micro-société. Fait que ce qui se passe à l'extérieur, ça passe à l'intérieur. T'sais, pas plus tard qu'hier, j'en ai deux à Bordeaux qui se sont poignardés.
OK, fait qu'il y a encore il y a beaucoup de violence là, en dedans aussi.
Ben beaucoup de plus. Ça s'est détérioré là, depuis quelques années. Et ce qu'on voit actuellement, puis c'est un peu la cause à effet de dire ben comme tu as les pires à l'intérieur, ben ils ont les pires comportements aussi. C'est pas parce qu'ils rentrent en prison qu'il y a une baguette magique, comme certains hauts dirigeants pourraient penser, qu'ils vont s'améliorer puis qu'ils vont être meilleurs. On les met dans des secteurs, on les met sans trop d'encadrement parce qu'on n'ose pas trop, parce qu'on a peur d'être poursuivi, parce qu'on a peur qu'il y ait des plaintes.
Mais ça ferait quoi, mettons?
On manque le bateau un peu. Puis je dis pas qu'on doit devenir comme les États-Unis. Comme je disais tantôt, il y a juste un milieu. Il y a l'équilibre entre les deux qu'on doit trouver parce qu'il y a une dualité des rôles quand tu es agent correctionnel. Il y a une dualité où, oui, on doit faire régner l'autorité, on doit faire régner les règles, les règlements, les lois. Et de l'autre côté, on travaille aussi à accompagner les personnes incarcérées. Puis des fois, tu as le même rôle les deux rôles dans la même journée.
Hey boy.
Okay. Fait qu'il faut que tu joues avec. T'sais, le matin, tu peux rencontrer une personne incarcérée pour discuter, pour regarder son plan de sortie. Puis l'après-midi, tu peux le poivrer avec du poivre de cayenne, le même.
J'ai envie de te demander, parce qu'on entend souvent ça, puis c'est cliché, là, mais il y a bien des gens qui disent « Nos prisonniers sont bien mieux traités que nos mondes en CHSLD. » Tu irais-tu jusque-là? Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là?
Ben, je dirais que je l'ai dit quelques fois dans les dernières semaines. Fait que oui, je la pense. Là. quand on voit tous les services qu'on veut déployer pour les personnes incarcérées, le fait qu'on veut pas couper de services, même en période estivale, alors qu'on manque d'effectifs. Puis quand on fait le parallèle avec la santé, écoutez, dans la santé, on ferme des étages complets d'hôpitaux l'été parce qu'on manque de personnel, mais en prison, il faudra offrir l'entièreté des services. Ça, c'est un peu, pour moi, quand je regarde ça, je trouve ça aberrant. Et, puis je vous dis pas là, qu'on doit pas les nourrir, mais on doit pas leur offrir ce que la loi prévoit. Là. Ça, c'est pas ça. Mais pourquoi qu'on en offre plus puis toujours plus, alors que présentement, on gère nos établissements de détention à coût de temps supplémentaire obligatoire?
Ouais. Les agents de la paix qui te jasent, Mathieu Lavoie, tu es président national du syndicat, donc les agents de la paix te jasent régulièrement. Est-ce qu'il y a encore des détenus qui sont 3-4 dans une cellule alors que c'est une cellule pour deux détenus? Ça existe-tu encore, ça, dans les centres de détention?
Actuellement, on a des établissements, en effet, qui sont en surpopulation, où on roule des salles de surpopulation, où on appelle, c'est-à-dire qu'on met plusieurs détenus dans une salle qui ne devrait pas en contenir autant. Où est-ce qu'on met des matelas au sol pour coucher des personnes incarcérées dans une cellule qui avait un lit, ben là, on met un matelas au sol pour en coucher un deuxième. C'est la réalité qu'on vit dans certains établissements, qu'on roule à 120-125% de capacité, ou qu'on déguise les chiffres en ouvrant des places fictives, en disant non, on n'est pas à 100%, mais il y a 50 places qu'on peut pas utiliser parce qu'elles sont pas utilisables. Fait que c'est la réalité qui est vécue là depuis là, quelques mois. Ce qui amène ça, en fait, c'est que certains aussi établissements ont dû fermer des secteurs parce qu'ils manquent d'effectifs, mais c'est les autres établissements autour qui ont... On n'a pas mis les personnes incarcérées sur la rue, on les a envoyées dans d'autres établissements, donc c'est venu impacter d'autres établissements. La réalité, c'est que notre parc immobilier au service correctionnel est très mal en point. Il y a des établissements qui ont manqué d'amour, il y a des établissements qui ont manqué d'investissement aussi. Quand je regarde à Montréal, j'ai un établissement comme Bordeaux, où ce que j'ai peut-être 80 cellules inexploitables présentement, parce qu'il y a des fenêtres brisées, parce que les détenus ont arraché leurs fenêtres, parce que les détenus ont brisé leurs portes. Donc, ils ne sont pas sécuritaires. Puis que l'employeur nous dit on devrait les utiliser pareil. Ouais, non, ça marche pas. C'est pas vrai qu'on va utiliser une cellule qui n'est pas exploitable.
Ce serait quoi la formule idéale pour nos prisons au Québec? Parce qu'on peut pas, bon, on peut pas les enfermer 23 heures sur 24 nécessairement, mais de ce que j'entends, tu es d'accord pour dire qu'on est peut-être un peu trop lousse aussi puis qu'ils sont quand même très bien. Il y en a qui commettent des crimes à l'intérieur pour rester là volontairement parce qu'ils le sont bien. Fait y a-t-il une formule idéale qu'on serait peut-être capable d'atteindre dans les prochaines années pour avoir une, je veux dire, une punition qui est adéquate aussi, là, déjà que le système de justice en arrache?
Bien, tu sais, déjà, la base d'appliquer ce qu'on doit appliquer comme directive, d'appliquer, tu sais, exemple, une personne incarcérée qui commet un acte, qui a un manquement disciplinaire, bien, qu'on traite les manquements disciplinaires pour que la personne ait des conséquences. Souvent, on va les laisser sur le bureau. Les gestionnaires vont les laisser sur le bureau, les traiteront pas et vont attendre que de mettre de côté en disant ah, ça fait trop longtemps, on le traitera pas, donc on retire le manquement disciplinaire. Il y a une notion pour moi, en tout cas dans ma conception de la réinsertion, de l'accompagnement, il y a un fait, c'est l'acte conséquence. Tu commets un acte en détention, il doit y avoir une conséquence. Puis la conséquence doit être à la hauteur de l'acte que tu as commis, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a laissé aller, puis probablement que ça a été causé par le fait que, avec les années, on a nommé des personnes à la tête des établissements du ministère qui provenaient du milieu de la réinsertion sociale, qui y croyaient, puis pensez pas, j'y crois pas. J'y crois à la réinsertion sociale, mais une bonne réinsertion sociale demande un encadrement, puis c'est ce qui manque actuellement. On laisse. Puis, vous savez, j'ai entendu le ministre Bonnardel, depuis qu'il a été nommé, souvent répéter les personnes incarcérées doivent payer leurs dettes à la société. C'est des belles paroles. C'est des paroles qui peuvent porter quand on les entend, mais aujourd'hui, ça prend des actes pour appuyer ces paroles-là.
Mathieu, est-ce que tu as rigolé un peu quand tu as vu la semaine dernière les articles concernant les évasions par hélicoptère qui sont encore et toujours possibles au Québec sans que un policier lève la main en disant « Attends un peu, on n'avait pas promis de régler ce problème-là lorsqu'il y a eu les deux évasions en quelques jours? »
Ben, écoute, à l'époque, je commençais là, à la présidence du syndicat en 2014 quand il y a eu l'évasion au Québec, puis tu sais, il y a eu le rapport, il y a eu un rapport d'enquête qui a été fait, puis j'ai toujours considéré que ce rapport-là, dans le fond, c'était un peu de la poussière aux yeux. C'était un peu pour éteindre le feu, puis dire, ah oui, on va faire une enquête administrative, puis on va mettre appliquer des solutions. Là, les politiciens à l'époque, c'était comme projeter des solutions, puis c'était assez particulier. Des fois, il y avait des aberrations dans ce qui était proposé. Mais quand on regarde aujourd'hui, est-ce que ça me surprend? Non, parce que on désire pas investir dans nos établissements. De dire j'ai investi 5 millions dans un établissement pour la sécuriser, c'est pas populaire. Ça fait pas gagner des votes à un parti au pouvoir qui en aurait besoin probablement là, quand on voit les chiffres.
Ouais.
Mais clairement, faut le prendre autrement. C'est un investissement dans la sécurité de la population. C'est un investissement dans le système de justice québécois parce que la finalité du système de justice québécois, c'est les établissements de détention. Pour une bonne partie des gens qui sont considérés trop dangereux pour la société, on peut pas dire, ben, va chez vous, puis, tu sais, des fois, on a des sourcils, des mesures, là, qu'on dit aux gens, restez chez vous de 23 heures le soir à 7 heures le matin. Non, il y a des gens que tu peux pas, il y a des gens qu'il faut que tu gardes en dedans. Aujourd'hui, nos établissements sont remplis de crimes organisés, sont remplis de gangs de rue, sont remplis de gens qui sont beaucoup mieux en détention pour la société, pour le public, pour assurer la sécurité du public. Mais il va falloir investir dans nos établissements aussi.
Mathieu, c'est toujours un plaisir de te jaser, puis salut ta gang de notre part.
C'est un plaisir, merci.
Bye-bye. L'excellent Mathieu Lavoie, qui est président national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Il y a des gens, Audrey, qui auraient aimé que tu répètes le nom du documentaire qui est disponible actuellement sur Netflix.
Ça s'appelle Unlocked, a jail experiment. C'est 8 épisodes. Si vous écrivez juste Unlocked, vous allez le trouver assez rapidement. Là, c'est assez intéressant, l'expérience qu'ils ont fait du côté de l'État d'Arkansas.
11h58, on vient. Marceau.